vote pour la science avec Isabelle Burgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Allez-vous chez votre dentiste régulièrement ? Avril est le mois de la santé bucco-dentaire canadienne et les soins dentaires réguliers pourraient améliorer notre santé générale bien au-delà des simples caries. Au congrès de l'ACFAS de l'an dernier se tenait un colloque sur la santé dentaire comme partie intégrale de notre santé globale. Et cette année, en juin, se tiendront les journées de santé dentaire publique du Québec ensemble pour améliorer la santé bucco-dentaire. Les soins dentaires coûtent souvent très cher et de nombreuses personnes n'ont souvent pas les moyens de se faire soigner, avec de nombreuses conséquences sur leur santé générale. Il y a donc des initiatives à souligner, comme la création d'une clinique d'hygiène dentaire communautaire du quartier Saint-Michel à Montréal, une petite clinique itinérante qui donne des soins de santé bucco-dentaire gratuits aux citoyens de ce quartier. Autre bonne nouvelle, le gouvernement fédéral a annoncé récemment plus d'argent donné pour les enfants et les personnes âgées avec le régime canadien de soins dentaires pour ceux qui ont 70 ans. Quels sont les bons côtés de visiter notre dentiste souvent ? Pour le savoir, ne bougez pas. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous vous invitons dans le cabinet de dentiste pour nous intéresser aux soins dentaires comme partie de notre santé globale. Pour en parler, je suis en compagnie de la docteure Nathalie Ray, dentiste spécialisée en médecine buccale et professeure agrégée à la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie du docteur Christian Caron, professeur titulaire à la faculté de médecine dentaire de l'Université Laval et également fondateur et directeur du Centre d'excellence sur la santé bucco-dentaire et le vieillissement. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour donc à tous les deux. Que nous aimons y aller ou pas, visiter régulièrement son dentiste est important. Cette visite contribue même à notre santé globale car il y a des liens entre plusieurs maladies de la bouche et diverses maladies systémiques. Donc pour commencer, docteur Ray, quel est le rôle du dentiste pour la prévention des maladies plus importantes ?
Je vous dirais que le rôle du dentiste est certainement de faire un examen complet buccal, autant des tissus durs, donc au niveau des dents, mais également toutes les structures connexes alentour. L'examen permet, dans certains cas, de déceler parfois des lésions qui peuvent être potentiellement précancéreuses ou cancéreuses. Et des fois, ça peut également être le signe clinique d'une maladie sous-jacente, soit connue ou pas connue du patient. Donc, le rôle du dentiste se positionne aussi à ce niveau-là, au-delà de juste là, les structures dentaires de la bouche.
Oui, les patients qui sont dans votre cabinet à vous sont référés généralement?
Oui, de façon générale, ce sont notre première ligne, qui sont nos dentistes généralistes qui, des fois, décèlent certaines anomalies dans la bouche. Et puis, nous les réfère à ce moment-là pour approfondir l'investigation ou pour préciser le diagnostic. Donc, oui, pour la plupart, ça a été détecté par la première ligne, qui est le dentiste généraliste, qui voit normalement les patients quand même assez régulièrement. On peut penser des nettoyages au 6 mois. Donc, ils ont vraiment l'opportunité de déceler des changements dans la santé bucco-dentaire de leurs patients et de nous les référer par la suite pour préciser le diagnostic.
Entendu. Docteur Caron, quels sont selon vous les liens entre la santé dentaire et la santé en général?
Il y a des liens qui ont été découverts là, au début des années des 1900. Il y a eu une théorie sur les infections focales qui, au cours des années, là, ont difficilement été prouvées à ces époques-là. Puis, autour la fin des années 2000, ou juste au début des années 2000, on a commencé à comprendre plus le lien qui existait entre les infections de la bouche et certaines infections distantes là, qui peuvent se produire. Donc, on a pu constater certains liens statistiques avec certaines maladies cardiovasculaires, en lien avec des infections dentaires et parodontales. On a aussi vu des liens avec les bébés de bas poids chez les gens qui avaient une certaine condition parodontale qui était existante, donc certaines maladies parodontales, et plusieurs autres, donc des effets sur le diabète, sur aussi d'autres maladies là, sous-jacentes de la bouche. On a même, dans les dernières années, trouvé certains liens aussi avec la maladie d'Alzheimer qui arrivait avec la condition bucco-dentaire. Donc, on voit que de façon que la bouche n'est pas isolée du reste du corps et il y a un lien avec les infections sous-jacentes de la bouche et certaines conditions médicales chroniques là, qu'on peut voir là, chez les gens se développer.
Oui, il y a un grand tout, le corps est un grand tout. Docteur Ray, il y a des liens donc entre plusieurs maladies de la bouche et des maladies systémiques ou chroniques comme le diabète mal contrôlé. Expliquez-nous ces liens-là.
Ben, au fait, autant on peut être parfois le patient peut présenter peut-être des fois les premiers signes de maladies systémiques sous-jacentes ou présenter déjà à son histoire médicale un problème de diabète et puis on peut constater en bouche certaines altérations. Donc, mon collègue vous a parlé là, de la maladie parodontale. Effectivement, normalement, lorsque un diabète est moins bien contrôlé ou instable, ça peut rendre les patients plus susceptibles à la maladie parodontale et même moins bien répondent au traitement de nettoyage et de détartrage chez cette population-là. Donc, c'est sûr que lorsqu'on observe, disons, une certaine résistance au traitement normalement conventionnel, on peut à ce moment-là se questionner sur la stabilité de la maladie sous-jacente, comme le diabète. Également retrouver d'autres infections en bouche, comme des infections fongiques. Donc, du champignon, on en a tous dans notre bouche. Mm-hmm. Par contre, des fois, ben, il y a un certain déséquilibre et le patient peut présenter des infections fongiques. Et ça va être associé à une certaine immunosuppression du patient. Donc, des fois, c'est des gens effectivement avec leur diabète instable, mais ça peut également être bon des patients qui peuvent être immunosupprimés, donc ils prennent des médicaments pour d'autres maladies chroniques, exemple la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse. Des fois, ces gens-là prennent des médicaments pour contrôler leur condition systémique et ça a quand même des répercussions au niveau de la santé bucco-dentaire.
Oui, quand vous parlez de maladie parodontale, vous parlez de saignement, vous parlez de liaison, c'est quoi
oui.
exactement?
Au fait, la maladie parodontale, pour résumer ça de façon simple, c'est un petit peu la perte de l'os qui peut s'installer autour de la dent. Donc, normalement, la dent, elle est supportée par l'os, ce qui fait qu'elle est solide en place. Et puis, ce qui arrive, c'est que bon, les bactéries commencent à s'accumuler en dessous de la gencive et tranquillement, ces bactéries-là engendrent une perte osseuse. Donc là, la dent peut, avec le temps, devenir mobile. Et à la limite, ben, il y a certaines personnes, des fois, qui vont perdre leur dent à cause d'une perte osseuse qui peut être extrême.
Oui.
Donc, c'est un petit peu ça. La maladie parodontale peut se résumer un peu à la perte osseuse alentour de la dent.
Docteur Caron, vous êtes spécialisé dans le traitement des personnes en perte d'autonomie et médicalement compromises et vous offrez un service de dentisterie portative. Pouvez-vous nous décrire peut-être ces soins et à qui cela s'adresse?
Oui. Juste avant, je vais juste renchérir quelques secondes sur ce que ma collègue a dit. Lors de la maladie parodontale ou des parodontites, il y a aussi une inflammation chronique importante qui se développe et ça peut aussi générer certains indicateurs inflammatoires qu'on retrouve là, au niveau sanguin et qui souvent est la base là, peut-être de certains liens qu'on peut voir avec le développement des maladies chroniques. Il y a l'infection qui peut se rendre au niveau systémique, mais il y a aussi tout le phénomène inflammatoire qui est originaire de la bouche qui a un certain effet. Bon, maintenant, je vais vous parler un peu de la partie de ce que je fais. Ben, moi, je suis un dentiste qui visite soit les patients chez eux ou dans des centres d'hébergement où il n'y a pas de centre dentaire prévu pour des traitements, Donc, on vient avec de l'équipement portatif qui est, en résumé, là, une mallette sur roue qui est à peu près peut-être un mètre de haut par quelques, peut-être, je dirais, un demi-mètre de large. Et on apporte les instruments nécessaires, comme vous voyez chez le dentiste, pour être capable de traiter les dents, que ce soit pour faire des nettoyages dentaires, des obturations dentaires. On peut même faire de remplacer les prothèses existantes ou les besoins en prothèses chez cette population-là. L'important, comme je vous dis, c'est que ces traitements-là se limitent quand même à des traitements plus de base de la dentition, de ce que je vous ai dit, là, les nettoyages, les obturations, certaines extractions et aussi comme je vous disais, le remplacement d'appareils dentaires sont amovibles.
Oui, c'est de la dentisterie de proximité auprès des aînés, c'est ça?
Exactement, c'est ça. On vient chez eux, on amène tout le matériel, on se déploie, c'est pas très long, ça prend peut-être une dizaine de minutes là, s'organiser. On détermine dans la maison ou dans le centre où est l'endroit le plus approprié pour s'installer. On respecte en tout point là, les mesures d'asepsie qui nous sont exigées par notre ordre professionnel, d'autre part, et on est capable de faire des examens, des dépistages. Une des limites qu'on a, c'est au niveau de la radiographie portative, où là, à ce moment-là, on n'a pas encore d'autorisation d'utiliser des appareils portatifs là ici au Québec, parce qu'on est plus dans un mode de laboratoire de radiographie ici qui est certifié. Donc, lors de nos examens, c'est des examens qui sont visuels, donc qui ne comportent pas là, de radiographie à ce moment. Mais les traitements, comme les obturations, on peut les faire, ou comme je dis, là, certaines extractions et aussi les nettoyages là, sont facilement faits à domicile, au chevet des patients ou assis dans une chaise là, qui peut être une qu'on amène. Des fois, on utilise les meubles existants.
Les fauteuils.
Les fauteuils qu'ils ont.
À la maison, finalement. Oui. Docteur Ray, pour dépister les problèmes, il faut aussi s'intéresser à l'histoire du patient, à ses habitudes sociales. Généralement, quand on suspecte un problème, comment on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est des médecins spécialistes qui vous les réfèrent ou des médecins, le médecin de famille?
Oui, c'est ça. Ça peut, les références peuvent provenir effectivement aussi du corps médical ou, comme je vous disais, du corps dentaire. Donc, les dentistes généralistes sont nos yeux, disons, de première ligne. L'histoire, au fait, les habitudes de vie sont des facteurs importants pour lesquels nous devons les questionner chez nos patients. On peut facilement penser au tabac et à l'alcool. Donc, on les identifie lors du questionnaire. On questionne, au fait, sur l'habitude présente et passée. Parce que c'est sûr que mon patient peut avoir cessé de fumer depuis un an, mais avoir été un fumeur, disons, de longue date. Donc, il y a un effet cumulatif néfaste de quantité et de durée, autant au niveau tabagique que la quantité d'alcool. Et puis, quand les deux habitudes de vie se marient ensemble, ce qui est des fois souvent le cas chez les gros fumeurs, on va les retrouver également des gros buveurs. À ce moment-là, le facteur de risque, il est vraiment exponentiel en termes de risque de développer des lésions potentiellement soit cancéreuses ou cancéreuses en bouche. Donc, on peut parler d'un risque pouvant augmenter jusqu'à 80% chez les gens qui sont des gros fumeurs et buveurs comparativement à un autre patient qui n'a pas du tout ces habitudes-là.
Oui.
Donc oui, les habitudes sociales sont définitivement à questionner, investiguer chez nos patients pour un petit peu moduler leurs facteurs de risque en lien avec les lésions qu'on pourra éventuellement identifier dans leur bouche.
Oui, c'est un portrait global dont vous avez besoin finalement, hein, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Docteur Caron, vous avez mis au point un outil pour détecter les anormalités de la bouche, un outil destiné aux infirmières. Racontez-nous.
Oui, infirmières ou autres personnels non dentaires là, de la santé, les professionnels, peuvent utiliser cet outil-là pour en fait qu'on puisse détecter le plus rapidement possible les anomalies qu'on retrouverait dans la bouche. Quand je parle d'anomalies, là, il y en a beaucoup d'anomalies dans une bouche. On parle des anomalies les plus courantes chez la population âgée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui se faisait dans le monde là comme outil. Il y a certains outils qui semblent intéressants, qui avaient été validés, mais il manquait toujours une question d'identification des choses parce que ces outils-là, la majorité, était littéral. Donc, c'était des outils où on décrivait par écrit les anomalies qu'on devait voir. Et ça, pour une personne qui n'a pas étudié en médecine dentaire, ça devient quand même difficile parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'expérience d'avoir vu beaucoup de situations là, anormales dans une bouche. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un outil imagé qui permet qui a deux niveaux d'anormalité, puis un niveau de normalité avec des photos associées, des diverses structures de la bouche et des diverses conditions comme la salive aussi, la condition des prothèses, la douleur. Donc, il y a 10 dimensions qui nous permettent de faire le tour d'une bouche d'un patient pour quelqu'un qui n'est pas en médecine dentaire, de regarder les photos qui sont associées à l'outil et d'être capable de déterminer ce qu'il voit dans la bouche, est-ce qu'elles correspondent à aux photos qu'on voit là, pour les diverses structures. Donc, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un niveau d'anormalité léger à modéré ou un niveau d'anormalité sévère? Ce qui fait que lorsque les gens qui sont dans les CHSLD ou les infirmières qui regardent leurs patients, bien, on détecte beaucoup plus rapidement les problématiques que les gens ont en bouche et on peut intervenir ou faire intervenir un dentiste ou un professionnel de la santé dentaire plus rapidement pour corriger ces choses-là. Pourquoi c'est important? Parce que le temps est très important. Parce que quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, plus qu'elle est avancée, plus que c'est difficile d'intervenir. Donc, lorsqu'on dépiste rapidement, les lésions, les problématiques qu'on trouve sont beaucoup plus faciles à régler. Donc, si on les dépiste rapidement et on intervient plus vite, souvent l'intervention est plus conservatrice, plus facile à faire, plus facile que le patient puisse endurer ou supporter pour qu'on puisse réaliser là, le soin qui était prévu.
Et donc, qui va être plus court, oui.
Oui, plus court et plus facile, donc moins exigeant pour le patient aussi. Donc, la possibilité de coopération du patient est plus grande lorsque les gestes sont simples à effectuer.
Oui, je suppose le corps vieillit, la bouche vieillit aussi. J'imagine que la structure de la bouche doit changer, docteur Caron.
Ce qui change, entre autres, quand on voit, là, il y a quelques changements au niveau des muqueuses, quelques changements au niveau de la langue, des structures, mais généralement, les grands changements sont plus associés à des pathologies qui vont se développer, soit la carie dentaire ou les maladies parodontales qui sont souvent aussi originaires quand on vieillit, du manque de salive aussi qu'on va avoir, où il y a des éléments protecteurs qui s'y retrouvent. Et lorsque la salive se tarit pas naturellement, mais souvent par la prise de plusieurs médicaments qui fait que le flot salivaire diminue, bien ce niveau de protection-là baisse en même temps, surtout pour les caries dentaires et la maladie parodontale, ce qui fait justement qu'on doit plus faire attention chez cette population-là en termes de suivi pour dépister rapidement les anormalités du type de carie ou maladie parodontale parce qu'elles se développent plus rapidement que chez une personne adulte, justement en raison de la diminution du flot salivaire qui est engendrée, aussi du manque d'hygiène. Plus qu'on perd d'autonomie, c'est souvent l'hygiène devient plus difficile. Et donc, on a à la fois la perte de salive, une augmentation des bactéries qui restent présentes sur les dents et qui peuvent affecter justement les dents. Et aussi, c'est comme disait ma collègue, là, faire qu'à un moment donné, on perd le niveau osseux autour des dents, que les dents deviennent mobiles.
Oui, tout l'écosystème, donc, finalement.
Oui.
Docteur Ray, est-ce que le vieillissement de la population entraîne plus de problèmes de santé, plus de douleurs, plus d'ulcères, selon vous?
Je vous dirais, c'est sûr, comme mon collègue parlait, moins de salive, par conséquent, effectivement, il y a plus de caries. Mais effectivement, moins de salive, ça mène aussi d'autres infections buccales en bouche, comme je vous parlais tantôt, les infections à champignons. Donc souvent, ça peut être accompagné du portrait clinique d'un patient qui manque de salive chez la population plus âgée. Donc on va souvent retrouver des infections à champignons qui accompagne le reste des autres infections, bon, de caries et autres. Et ça, ben, ça peut également causer de la douleur pour les patients si elle est non traitée. Une sensation de brûlure, d'inconfort que le patient peut ressentir dans sa bouche. Donc, oui, définitivement, la salive, elle joue un grand rôle dans tout l'aspect infection bucco-dentaire. Puis je vous dirais de façon générale aussi, les lésions normalement potentiellement cancéreuses sont plus prévalentes chez la population plus âgée. Donc c'est ça qu'on tend à retrouver plus de cas chez les 65 ans et plus. Donc il y a aussi des mutations génétiques avec l'âge qui sont pas nécessairement associées au tabac et à l'alcool. Donc ils peuvent également contribuer à certaines lésions qui peuvent être potentiellement cancéreuses dans la bouche. Donc
Les changements de vie aussi. Docteur Caron, notre santé et notre vieillissement peuvent aussi entraîner donc des soins dentaires plus adaptés. Je pense par exemple aux soins donnés plus en fin de vie, des soins plus de confort. Pouvez-vous nous en parler rapidement?
Oui, écoutez, ça c'est important parce que comme en médecine, on sait qu'en fin de vie, il y a aussi une épuration, entre autres, là, de la médication qui soutient même certaines fonctions plus vitales. Quand on rentre, entre autres, en CHSLD, il y a des médications aussi qui rentrent en compétition. Mais nous autres, en médecine dentaire, on a aussi le paradigme où on doit considérer cette fin de vie-là qui approche. Et donc, le niveau de soins qui va être offert dépend aussi de la décision du patient. Le patient aussi a, dans son cheminement, de perte d'autonomie, a aussi décidé là, à travers certains formulaires et décisions qu'il y a avec leur médecin de l'intensité des soins qui vont être offerts au niveau autant au niveau médical que aussi au niveau dentaire. Donc, nous, les dentistes en général, on a été formés pour sauver toutes les dents du monde et de sauver toutes de réhabiliter les gens pour leurs fonctions masticatoires de façon total. Donc, c'est ça qu'on nous enseigne, d'aider les gens à maintenir leur fonction et leur bouche en santé. Vers la fin de vie, on va plutôt tourner vers aussi des soins qu'on appelle de confort et on va baisser, entre autres, l'intensité des soins. Ça ne veut pas dire qu'on ne traitera pas les conditions qui vont générer de la douleur. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'interviendra pas du tout, mais on va quand même baisser l'intensité pour amener le patient doucement vers sa fin de vie. Donc, il y a certaines vers la fin de vie où on va tolérer certaines infections présentes qu'on va contrôler autrement, soit par antibiothérapie, parce qu'on est rendu très avancé dans l'évolution vers la fin de vie, parce que le traitement qu'on ferait serait probablement plus difficile à recevoir pour le patient et pas nécessairement bénéfique rendu à ce point-là dans le... Donc, tout comme en médecine, nous, en médecine dentaire, on doit s'adapter à cette fin de vie-là et aussi adapter le type de soins qu'on va offrir à ces gens-là pour les amener doucement, calmement, sans douleur, vers la fin de leur vie.
Oui, j'aimerais pour terminer qu'on parle des inégalités sociales pour la santé bucco-dentaire. Le gouvernement fédéral a annoncé justement certaines choses qui s'en viennent pour cette année, mais les coûts élevés des soins et les différences d'accessibilité posent toujours des défis pour une partie moins nantie de la population. Docteur Ray, qu'est-ce que ça entraîne? Comment vous accueillez les nouvelles justement à propos des changements?
Oui,
du régime canadien de soins dentaires.
Oui, mais effectivement, l'intention, elle est bonne que de donner un petit coup de main à cette partie-là de la population moins nantie. Cela étant dit, il faut quand même comprendre que c'est pas potentiellement, ça ne va pas couvrir tous les frais. Donc, il faut quand même que le patient comprenne que la différence entre que le gouvernement va donner le prix réel des coûts des soins dentaires, il y a quand même une différence là potentielle que le patient devra quand même là couvrir là.
Oui, et docteur Caron, pour terminer, peut-être les soins dentaires, c'est quand même une partie de la santé publique, donc c'est quelque chose qui doit être accessible et important.
Ben, on dit toujours qu'il n'y a pas de santé sans une bonne santé bucco-dentaire, donc santé dentaire. Donc, c'est sûr que le fait de prendre soin de sa bouche et de s'assurer qu'elle reste en santé, et le programme probablement nous va sûrement aider une portion de la population, bien que pour l'instant, la définition de comment il va s'appliquer reste pour certaines parties un peu plus nébuleuse et difficile à comprendre. On croit que ça va aider à justement à arriver à maintenir pour les gens qui ont des barrières financières ou de plus consulter, probablement de garder une santé bucco-dentaire plus près de ce que les professionnels en santé dentaire souhaitent.
Oui, il y a un manque d'accessibilité financière, mais un manque d'accessibilité tout court aussi, et c'est pour ça que les cliniques portatives sont importantes, pas vrai?
Oui, certainement. Il y a une portion de cette clientèle qui ne peut pas se déplacer ou qui est difficilement déplaçable pour des raisons cognitives, parce que le patient va dépenser le peu de capacité d'adaptation qu'il a au déplacement, et lorsqu'il arrive chez le dentiste, c'est difficile. Donc, on a besoin de changer notre façon de faire pour approcher cette clientèle-là si on veut avoir plus de succès dans les traitements qu'on va faire, parce que sinon, on les amène au bureau. Rendus au bureau, ils deviennent confus et ils deviennent très difficiles à traiter. Donc, on ne réussit pas plus. Donc, ce nouveau mode de soins-là, qui est plus adapté à cette clientèle-là, doit être développé. Et on espère que nos collègues dentistes vont en masse, là, éventuellement, vouloir s'y intégrer.
Oui, emboîter le pas, donc pour se rapprocher de leurs patients, puis des patients surtout vieillissants. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie du docteur Christian Caron, professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval et fondateur et directeur du Centre d'excellence sur la santé bucco-dentaire et le vieillissement. On mettra le lien sur la page. Et on était en compagnie de la docteure Nathalie Ray, dentiste spécialisée en médecine buccale et professeure agrégée à la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée. Voilà, Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter l'émission et si vous l'avez aimée, partagez-la. Visitez toujours aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.